La Belle Verte.
La Belle Verte.
Pour une transition écologique, solidaire et équitable, mettons-nous en action.
Mettons-nous en action. Au sommaire de La Belle Verte, cette semaine, si demain tout le monde devenait vegan, quel serait l'impact sur la planète? Nous parlerons également de la hulotte, du rapace nocturne présent dans nos forêts ardéchoises, mais aussi du magazine naturaliste. Notre chanson verte de la semaine, c'est Les Enfants du Danger de Oshi. Et comme à chaque numéro, je terminerai ce magazine avec quelques rendez-vous sur notre territoire.
L'action verte. Diminuons notre empreinte carbone.
Diminuons notre empreinte carbone. C'est un fait connu. La consommation excessive de viande est mauvaise pour l'environnement au regard de son bilan carbone. Aussi, devenir vegan a un impact particulièrement positif au profit de la lutte contre le réchauffement climatique, puisque le régime alimentaire vegan consiste à ne consommer aucun produit issu d'animaux ou de leur exploitation. Il est difficile d'évaluer combien de personnes exactement suivent ce régime, mais en ce qui concerne l'alimentation, les ventes de produits type traiteurs d'origine 100% végétale ont explosé. Selon une étude du cabinet Xerfi en 2016, elles avaient déjà augmenté de 82%. Mais à la base, vegan c'est quoi ? Les vegans se sont fait connaître par des vidéos chocs tournées dans des abattoirs ou des élevages. Le terme « vegan » a été créé en 1944 par Donald Watson, cofondateur de la Vegan Society et première adepte du véganisme. Le véganisme, c'est une façon de vivre basée sur le refus d'exploiter les animaux. Il affirme que les animaux ont un droit naturel à la vie, à la liberté, à ne pas se faire exploiter ni maltraiter. Le but est que les animaux comme les hommes soient traités de manière éthique. Ainsi, les véganes ne consomment pas ou n'utilisent pas de produits d'origine animale ou issus d'animaux dans tous les aspects de leur vie. Tout ce qui est fait à partir de chair, de fourrure, de cuir, de laine, de soie ou encore de graisse animale est non utilisé. Ils excluent également tous les produits testés sur les animaux, comme certains produits d'entretien et des cosmétiques. Mais si demain tout le monde devenait vegan, quel serait l'impact sur la planète et sur les humains? C'est une vidéo proposée par Anna Moreau, réalisée pour le journal Le Monde. Je vous propose de l'écouter.
À quoi ressemblerait un monde vegan? Merguez de tofu, œufs à base d'algues, fromage de noix de cajou fermenté, nuggets de protéines de blé. Tous les produits de cette supérette s'adressent en priorité à un type de client, les véganes. C'est-à-dire des gens qui ne consomment rien, qui soient issus des animaux ou de leur exploitation. Pas de viande, de poisson, de produits laitiers, d'œufs ou même de miel. Pas question non plus d'acheter cuir, fourrure, laine, soie, cosmétiques ou médicaments testés sur les animaux. Pour l'instant, cette tendance concerne une petite minorité de la population. Mais qu'en serait-il si les 7 milliards d'habitants de la planète étaient véganes? Premièrement, les émissions de gaz à effet de serre diminueraient drastiquement. Dans le monde, presque 15% de ces émissions sont dues à l'élevage. C'est plus que tous les avions, voitures, trains et bateaux de la Terre réunis. Selon une simulation réalisée par l'université d'Oxford, si toute la population du monde était végane, les émissions de gaz à effet de serre liées à notre alimentation diminueraient de 70%. Deuxièmement, il y aurait beaucoup plus de terres à cultiver pour l'homme. Pour arriver à maturité, les bêtes d'élevage sont nourries avec des végétaux, beaucoup de végétaux. On estime ainsi qu'en moyenne, pour produire une calorie de viande, il faut dépenser 7 calories végétales. Si tout le monde était végane, les terres cultivées pour nourrir les animaux pourraient être cultivées pour nourrir directement les humains. Elles permettraient donc de nourrir plus d'humains. Troisièmement, cela serait bénéfique pour les pays riches, mais pas forcément pour les pays pauvres. si on en croit la simulation réalisée par l'université d'Oxford, un régime vegan généralisé permettrait de réduire drastiquement les maladies cardiovasculaires, le diabète et certains cancers. Ainsi, 8 millions de vies pourraient être sauvées chaque année, la plupart dans les pays du Nord, où ces maladies sont les plus répandues. Dans les pays pauvres du Sud, en revanche, quelques 2 milliards de personnes souffrent déjà de malnutrition, voire de famine. Supprimer les protéines animales les priverait d'une source de nutriments essentiels, difficile à remplacer. Quatrièmement, beaucoup d'animaux mourraient. Par exemple, dans un monde vegan, on ne consommerait plus de miel. Donc, il n'y aurait plus d'apiculteurs. Or, sans apiculteurs, les abeilles mellifères seraient directement exposées aux parasites et ne pourraient pas trouver suffisamment de nourriture. Résultat, il y aurait beaucoup, beaucoup moins d'abeilles. De même, dans un monde vegan, les vaches, les poules, les cochons seraient livrés à eux-mêmes et pour beaucoup, sans l'élevage de l'homme, ils ne survivraient pas. Mais ce n'est peut-être pas si grave.
C'est des animaux qui ont été calibrés, les poulets pour produire davantage de viande, les cochons c'est pareil, les poules pondeuses optimisées pour pondre des œufs. C'est des animaux qu'on a fabriqués. Bien sûr, il y en aura beaucoup moins puisque aujourd'hui, on les fait naître exprès, souvent par insémination artificielle, pour les tuer.
Quoi qu'il en soit, ces espèces ne s'éteindront pas complètement. Elles vivraient probablement en bien plus petit nombre, peut-être dans des refuges comme celui-ci, qui recueille des animaux échappés ou exfiltrés des élevages et des abattoirs. Reste une question. Dans un monde où on ne consomme plus les animaux, quel statut leur donner ? C'est précisément la question à laquelle plusieurs philosophes réfléchissent aujourd'hui. Dans leur essai Zoopolis, Will Kimlicka et Sue Donaldson proposent ainsi de donner aux animaux un statut juridique comparable à celui des enfants ou des personnes en situation de handicap. Les poules ou les canaris ne seraient donc plus considérés comme une propriété mais comme des membres à part entière de la société, disposant de droits comme l'accès aux soins médicaux ou la liberté de circuler par exemple.
Le véganisme est une des solutions les plus accessibles financièrement et les plus positives pour limiter notre impact sur la planète. Les régimes végétariens et véganes sont ceux avec l'empreinte carbone la plus faible, avec respectivement 1,7 et 1,5 tonnes équivalent CO2 par an et par personne. Un menu végétalien consomme 70% d'eau de moins qu'un menu classique. Par rapport à une alimentation omnivore, un végétalien économise par jour 5400 litres d'eau, 20 kg de céréales, 3 mètres carrés de forêt et 9 kg d'émissions de CO2 et de méthane. Pas mal, non ?
La Ligue Verte, initiateur, initiatrice d'action collective.
Bon, ben, il n'y a plus qu'à. À défaut d'être végane, je vous emmène en reportage au cœur d'une association pour la protection animale, la SPA.
Derrière, il y a une souffrance. Le chien, il faut le voir arriver. Il faut voir après dans quel état il est dans les boxes. Ça vous tord les tripes. Respectons un animal, quoi. Ou alors, on n'en prend pas.
Chaque année, en France, près de 100 000 chiens et chats sont abandonnés. La SPA recueille près de 42 000 animaux par an. L'association lutte quotidiennement, chaque jour, contre l'abandon des animaux.
Alors bonjour à tout le monde. Alors la SPA, donc les Amandiers, donc comme vous aviez dit, effectivement, est située en Ardèche. Et nous nous occupons de la protection animale. Sur les trois quarts sud de l'Ardèche, d'accord ? Donc, en gros, on va dire du Cheylard, sur le point le plus au nord, jusqu'à Vallon-Pont d'Arc, Vallée du Rhône et jusqu'à la montagne ardéchoise.
Lui, c'est un amour, il est trop mignon, il est trop chou. C'est l'UVPR.
Nous, on essaye de trouver toujours la bonne personne pour l'animal. Pardon. Et quoi qu'il en soit, les gens, quand ils viennent adopter un animal chez nous, un chat, un chien, prennent l'animal toujours à l'essai. Il y a forcément une période d'essai qui dure entre 8 et 10 jours. Donc effectivement, pour voir tout simplement comment ça se passe dans leur foyer, dans leur maison, leur appartement, s'il y a des enfants, s'il y a d'autres animaux. Et ensuite, au terme de cette période d'essai, ils vont revenir pour confirmer leur adoption. Et à ce moment-là, on leur remettra le carnet de santé. Tous nos animaux auront été vaccinés, donc leurs vaccins sont à jour, auront été identifiés, auront eu une visite sanitaire en amont par un vétérinaire, sont tous stérilisés et castrés. Voilà, donc on connaît, on a quand même une vision assez précise de l'état de santé aussi de l'animal.
Moi vouloir être le chat, quand dehors il fait froid, attendre mon repas, tapis au creux de tes draps. Si un jour tu préfères à mes félines caresses les canines d'un chien en laisse, tu ne comptes pas sur moi. Pour dormir sur le sofa, je te montrerai de quoi est capable un gros chat. À ce jeu-là, je suis roi.
Donc on demande aux futurs adoptants de nous donner une somme qui couvre une partie des frais vétérinaires que nous avons eus pour les chats et les chiens qui donc sont arrivés au refuge. Et puis il est important de rappeler à nos auditeurs que nous n'avons pas de financement de l'État. Nous vivons grâce à nos généreux bénévoles et donateurs. Et puis nous vivons aussi parce que nous nous substituons aux obligations de fourrière qu'ont les mairies. D'accord ? Donc on fait office de fourrière pour eux et nous gérons 160 communes sur l'Ardèche à l'heure actuelle. Après, il y a plein de manières de nous aider. Il y a effectivement des dons. Vous pouvez nous donner des sacs de litière. Vous pouvez nous donner des vieilles couvertures qui traînent chez vous. Vous pouvez aussi nous donner de l'argent. Vous pouvez... des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais on a besoin régulièrement d'éponges, de produits d'entretien, d'enveloppes ou de fournitures de bureaux diverses et variées. On peut nous aider aussi en étant bénévole. Donc on a deux types, on va dire plutôt trois types de bénévoles pour résumer. On a des gens qui s'occupent plus des chiens, d'autres plus des chats, et puis on a des gens qui s'occupent aussi du bricolage, parce qu'effectivement, régulièrement, il va falloir refaire des box, refaire les peintures, intervenir sur de la plomberie.
Nous, notre but, c'est que tous les chiens soient adoptés, tous, tous, tous.
Vous avez pas vu Mirza ? La 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 la. Vous avez pas vu Mirza? Oh la 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 la. Vous avez pas vu Mirza? Oh la 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 la. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas.
La chanson verte.
La chanson verte. À la une, cette semaine, les enfants du danger de Oshi. À travers les paroles de la chanson, Oshi décrit une génération insouciante, égoïste, nonchalante, qui ne se soucie pas du bien de la planète et ne pense qu'à son bien à elle. Elle met en exergue la cause écologique et décrit le futur comme étant une dystopie dans laquelle l'homme ne concevra pas de quoi vivre sainement. Oshi va encore loin, elle décrit les masques que les prochaines générations vont porter car l'air sera trop pollué. Bien que le rythme de la chanson soit dynamique, les paroles sont très sombres et pessimistes. Oshi a offert à ses fans une chanson engagée qui va solliciter les gens à réfléchir sur l'environnement ainsi que sur l'avenir des futures générations. Le message est lourd tandis que la mélodie est joviale.
On joue à cache-cache avec notre avenir. On danse sous les flashs pour oublier le pire. Jeunesse trop trash qui ne veut pas grandir. On s'attache, on se lâche. Nous on préfère
détruire. On est devenus des monstres. On voulait juste être grand. En course contre la montre, juste pour tuer le temps. Qui peut montrer l'exemple à part nos parents? Depuis la naissance, on nous dit de faire semblant. Alors on cherche un sens, quitte à faire demi-tour. On vient goûter l'essence pour avancer d'un tour. Dans notre indécence, il nous reste l'amour et notre adolescence qui durera toujours. On est des enfants du danger. Coup de soleil, on descend. Notre terre, une soirée. En bordel comme notre chambre. Enfants du danger. La terre veut un scaphandre. Qui pourra la venger quand tout sera ensemble? Enfants du danger. Franchement dérangé. Enfants du danger. Un sens, quitte à faire demi-tour. Allez, venez, on danse jusqu'au dernier jour. Dans notre indécence, il nous reste l'amour. Avec la bienveillance, la terre prolongera nos séjours. On est des enfants du danger. Coup de soleil, on descend. Notre terre, une soirée. En bordel comme notre chambre. Enfants du danger. La terre veut un scaphandre. Qui pourra la venger quand tu seras.
Grâce à ces paroles fortes, la chanteuse porte haut et fort les inquiétudes de la jeunesse face au déclin environnemental. Pour les illustrer, l'interprète avait partagé un vidéoclip animé interactif où le choix de l'internaute influe sur la suite de l'histoire, une façon originale et moderne de faire réfléchir tout un chacun aux conséquences de ses actes.
L'Ardèche verte.
Animaux.
Animaux de chez nous.
La chouette hulotte est la chouette la plus commune en France. Ainsi, on la trouve sur l'ensemble du territoire ardéchois. La survie de ce rapace nocturne dépend des petites proies qu'elle chasse. Son super pouvoir, c'est ses oreilles. À la hauteur inégale, elles sont positionnées de telle manière qu'elles les aident à voir. Même si cette caractéristique peut sembler liée à une erreur d'évolution, Mère Nature savait exactement ce qu'elle faisait. Vu que les conduits auditifs sont situés à des hauteurs différentes au sein du crâne de la chouette, les sons sont répercutés à une intensité et à un moment différent dans les deux oreilles. Cette différence permet à la chouette hulotte de trouver son chemin lorsqu'elle chasse. C'est la raison pour laquelle les jeunes encore au nid tournent fréquemment la tête, ils doivent d'abord apprendre à utiliser ce système de chasse. Les sons perçus par ce strigidé sont amplifiés puissance 10 grâce au disque facial autour de ses yeux. Son rôle est d'orienter et d'amplifier les ondes sonores vers les conduits auditifs. Quand on sait que les chouettes dorment surtout la journée, au moment où l'activité humaine est à son comble, on peut se demander si elles trouvent un sommeil réparateur. Mais la chouette hulotte a un autre super pouvoir, elle est capable de fermer ses oreilles quand elle dort.
Il était une fois... La Bibli verte.
La Hulotte, c'est aussi le nom d'une revue. C'est la revue qui vous raconte la vie des animaux sauvages, des arbres et des fleurs d'Europe, à la fois amusant et très rigoureusement documenté, le journal le plus lu dans les terriers émerveille aussi bien les enfants que leurs parents. Voici comment est présentée la revue La Hulotte sur le site du magazine à parution semestrielle. À chaque numéro, le journal le plus lu des terriers s'arrête sur un animal ou une plante, le hibou grand-duc, le lynx boréal ou encore le lierre. En une quarantaine de pages, le lecteur découvre tout ce qu'il y a à savoir sur chaque espèce. La Hulotte constitue une riche base documentaire sur la faune et la flore française, alliant l'humour, la richesse scientifique et la qualité des illustrations. Créée en 1972 par Pierre Déon, jeune instituteur à Rubécourt dans les Ardennes, La Hulotte était à l'origine le bulletin de liaison de la Fédération des clubs CPN, connaître et protéger la nature, le club CPN des Ardennes. L'objectif principal était de sensibiliser les jeunes à la nature, notamment à travers des activités de terrain. Avec les moyens du bord, l'instituteur avait lancé le premier numéro, 15 pages au format A4. À l'époque, les photocopieuses étaient encore rares dans les écoles. La machine qui leur permettait d'imprimer le journal ne pouvait pas dupliquer les images. Il fallait donc dessiner à l'encre des petites illustrations à la main, des textes parsemés de plaisanteries. Le style de la Hulotte ainsi est né. Envoyé dans toutes les écoles ardennaises, ce premier numéro devait inciter les élèves à créer des clubs de connaissances de protection de la nature, les clubs CPN. Si seulement une vingtaine de clubs sont nés de cette initiative, le journal a quant à lui trouvé un électorat. Devant le succès des 5 premiers numéros tirés à moins de 1000 exemplaires, La Hulotte est devenue dès 1974 une revue à part entière à destination de tout public. 50 ans plus tard, les premiers numéros sont devenus des objets de collection. Certains ont été réédités plus de 25 fois. C'est principalement le bouche à oreille qui lui a donné une audience internationale au fil des années, comptant aujourd'hui près de 160 000 abonnés dans 70 pays. Cette revue naturaliste française est diffusée uniquement par abonnement et par la vente des anciens numéros sur son site internet lahulotte.fr.
L'actu verte.
Sortie.
Sortie et nouveautés.
Voici quelques rendez-vous en ce mois de novembre. On commence avec ce dimanche, une sortie mycologique à Paillolive avec William Lhermenier. L'objectif est de poursuivre l'inventaire général de la biodiversité et non de récolter un plat de champignons, même si chaque année, il se trouve aussi des champignons comestibles. Rendez-vous à 10h au parking des Clairières sur la D252. Rendez-vous géologique le 18 novembre à l'Argentière, la vie au Permien, un monde étrange peuplé de reptiles énigmatiques. C'est une conférence avec Bernard Rioux, qui est paléontologue du comité scientifique du Géoparc mondial UNESCO des Monts d'Ardèche. C'est en entrée libre. Et vendredi 18 novembre, toujours à Saint-Just d'Ardèche, venez découvrir la nature au bord des cours d'eau, une richesse à préserver. Au bord des cours d'eau comme l'Ardèche ou le Rhône poussent des petites forêts nommées ripisylves. De la faune exceptionnelle qu'elles abritent au rôle essentiel qu'elles remplissent, venez découvrir au cours de cette soirée la richesse de ces milieux.
La Belle Verte, pour une transition écologique, solidaire et équitable. Mettons-nous en action.